L'actualité peut être caniculaire. Donnez un coup de fraîcheur à l'information. Yasmine Abdel-Fadel.
Les enseignants de la Fédération des syndicats d'enseignement du Québec, affiliés à la Centrale des syndicats du Québec, sont réunis depuis ce matin devant le bureau montréalais du premier ministre pour lancer un message aux chefs des principaux partis politiques. Les conditions d'enseignement doivent être améliorées. Nous avons avec nous Mme Josée Scalabrini, présidente de la Fédération des syndicats d'enseignement du Québec, CSQ. Bonjour Mme Scalabrini.
Bonjour à vous.
Alors, qu'est-ce que vous réclamez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous êtes venu dire au premier ministre et aux autres chefs de partis politiques?
Bien, vous comprendrez qu'en ce début de vacances, nous sommes venus souhaiter bonnes vacances en campagne. Parce que tout le monde sait qu'il y a des élections au mois d'octobre. Donc, tout le monde sait que dans les grands rassemblements cet été, autour des barbecues, nos candidats de différents partis vont s'inviter aux fêtes pour aller donner des poignées de main, pour aller passer des messages. Et nous, on voulait aussi s'inviter à cette campagne-là. On est en fin d'année. Les enseignants ont dit le merci, ça suffit plus en éducation. Depuis des années, il y a beaucoup de souffrance en éducation et on sort d'une consultation de 1500 enseignants qui nous ont dit que c'était pas tout la reconnaissance d'en parler, il fallait poser des gestes qui vont venir s'attaquer aux graves problèmes de pénurie qu'on a en éducation présentement, qui va donner le goût à des jeunes de venir nous rejoindre en éducation, mais surtout qui vont garder des enseignants qui sont là. Trois grandes demandes. On dit qu'il faut d'abord travailler sur la composition de la classe. Dans les 20 dernières années au Québec, on a fait des choix de société. On a décidé d'intégrer nos élèves en grande difficulté, en même temps qu'on créait à côté les projets particuliers sélectifs qui faisaient qu'on sortait nos meilleurs élèves de nos classes. Donc, la classe dite régulière n'existe plus au Québec. Les services n'ont pas suivi. Donc, il faut être capable de rééquilibrer ces classes-là.
Deuxièmement, est-ce que vous voulez l'abolition des programmes spécialisés que vous dites sélectifs?
Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut trouver une façon pour équilibrer nos classes.
Mais qu'est-ce que vous proposez comme façon, Mme Scalabrini?
On va donner des services. On va s'assurer que c'est plus rien qu'un message, qu'on va être au rendez-vous pour donner des services. Et on va s'assurer que le nombre d'élèves, la taille de la classe, permet à l'enseignant d'enseigner et de travailler sur les difficultés de chacun de ces élèves-là. Si tu veux faire un choix de société qui amène à en avoir pour tout le monde, ben, il faut pas oublier ces gens-là qui sont du régulier, qui sont dans la moyenne et qui ont besoin de services aussi.
Mais Mme Scalabrini, ça m'amène à vous poser la question. Vous parlez de la taille des classes et de sa composition, donc pouvoir donner de l'oxygène finalement à ces enseignants pour pouvoir enseigner à toutes les strates, tous les segments de la population étudiante, les plus forts comme les plus faibles et ceux qui ont plus de difficultés. Mais la pénurie de main-d'œuvre, on fait quoi avec ça?
On travaille avec les gens du terrain pour chercher des solutions. On arrête de prendre des décisions en haut, de faire des annonces, parce que vous l'avez vu, là, ça fait au moins 20 ans que dans tous les partis confondus vont dire que l'éducation est une priorité. Mais au quotidien, c'est pas vrai. Ça n'a jamais été une priorité. Le plus bel exemple, c'est le deuxième point que je vous amenais sur les enseignants. Ils veulent un allègement de la tâche, un allègement de la bureaucratie. On veut qu'on nous donne de l'air, qu'on nous permette de faire ce pour lequel on a décidé de devenir enseignant, c'est-à-dire enseigner. On veut plus être au service de la bureaucratie, on veut être au service de l'apprentissage des élèves. Qu'on arrête là tout ce qui entoure l'éducation, qui est une gestion axée sur les résultats et des statistiques à envoyer au ministère, des évaluations qui ne servent plus à l'apprentissage, mais qui servent à remplir des documents qui ne sont pas nécessaires. Laissez-nous.
Donnez-nous des exemples de ces documents-là pour qu'on puisse comprendre la lourdeur bureaucratique qu'ils requièrent.
Est-ce normal qu'un élève de sixième année, là, un élève au primaire, là, soit un mois en évaluation à la fin de l'année? Une évaluation, quand ça a été créé, là, quand on a voulu des bulletins, c'est que l'évaluation soit au service de l'apprentissage de l'élève. Maintenant, c'est rendu que ça sert à faire des comparatifs entre les écoles, à faire des comparatifs entre les pays ou à faire réfléchir les gens qui sont au ministère, à faire des comparaisons les uns avec les autres. Nous, on dit là, toutes ces grandes évaluations-là qui ne sont pas nécessaires, repensons l'évaluation. On est capable, ça coûte rien, ça, là. Soyons-nous, regardons qu'est-ce que ça nous prend comme évaluation.
Mais au nom de la, au nom d'enlever la bureaucratie, Madame Scalabrini, est-ce qu'on n'est pas en train de niveler vers le bas? C'est trop compliqué faire des évaluations ministérielles, ça demande trop aux professeurs, ça sert à rien.
J'ai jamais dit ça parce que moi, j'en veux une évaluation qui va nous permettre de faire un bilan, là. C'est quoi les retards qu'on a eus dans les deux dernières années? Mais il y a une façon de faire des évaluations qui vont nous faire connaître quelle est la problématique de l'élève plutôt que juste des évaluations pour des évaluations qui apportent rien sauf des comparatifs larges. Et ça, si on en parle aux enseignants, ils vont être capables de vous dire comment ont évolué leur élève ou comment n'ont pas évolué leur élève et c'est quoi les retards des deux dernières années. On va rentrer l'an prochain, après 2 ans en pandémie, en disant que nos élèves ont de grands retards. Mais on n'est pas allé faire le bilan correctement. On a voulu faire les mêmes examens qu'on faisait il y a 3 ans, 4 ans, quand on disait déjà que on passait à côté de l'évaluation qui sert l'apprentissage pour faire des comparatifs qui amenaient rien et qui étaient beaucoup trop longs. Ce qu'on dit, c'est parler aux gens du terrain, là, puis adaptons ces évaluations-là pour qu'ils soient au service de l'apprentissage et non pas au service du gouvernement.
Madame Scalabrini, vous parlez également de la taille des groupes, de la revoir la composition et que pour le prochain gouvernement, les conditions de travail, ça va être essentiel à la table ronde de négociation qui va être entamée sous peu. Quelles sont vos demandes pour la table de négociation? Est-ce qu'il va y avoir des demandes aussi salariales? Parce qu'on parle beaucoup ici évidemment de la taille des classes, de sa composition et de l'allègement des tâches, mais on n'entend pas parler d'argent.
La dernière négociation, ça a été une négociation où on a fait un pas, puis on le salue, le pas qu'on a fait sur la rémunération parce qu'on s'est rapproché, puis on ne l'a pas atteint encore, mais on s'est rapproché de la moyenne canadienne. Cette fois-ci, oui, il y aura sûrement des choses à regarder dans les échelons, comme on appelle. Tu sais, quand quelqu'un arrive en enseignement, ça va prendre combien d'années avant de pouvoir gravir l'échelon. Partout ailleurs au Canada, c'est de 10 à 12 ans. Ici, au Québec, ça prend 15 ans. On va regarder des choses comme ça et le reste du salarial va aller avec tous les employés de la fonction publique. Là, vous le savez comme moi, tout a augmenté dans les derniers mois. Il y a un retard au niveau salarial pour tout le monde au Québec. Donc, il va y avoir des demandes en ce sens-là. Mais ce que nous disent les enseignants dans la consultation qu'on vient de faire, c'est surtout les conditions d'apprentissage des élèves et les conditions de travail des enseignants qu'il faut travailler pour prouver que l'éducation est une priorité au Québec.
Pourquoi, Madame Scalabrini, on parle toujours de l'éducation puis la réussite scolaire des enfants quand il y a des rondes de négociations, de conventions collectives qui s'en viennent? Quelles sont les propositions concrètes là, que vous faites au quotidien, au gouvernement, au ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, pour que rapidement des mesures puissent être mises en place?
Moi, j'ai le goût de vous dire qu'on ne parle pas d'éducation quand approche la négociation. On parle d'éducation généralement quand approche les élections. Les candidats vont vouloir parler d'éducation, vont vouloir dire que l'éducation est une priorité. Et une fois qu'ils sont élus, on découvre que l'éducation n'est pas une priorité. Vous l'avez vu pendant la pandémie, jamais les enseignants pouvaient apprendre vers où on s'en allait et qu'est-ce qui se passera au quotidien dans la vie des élèves et du personnel de l'éducation. Le premier ministre faisait une annonce en point de presse, puis après ça, il fallait tricoter autour de cette annonce-là pour tenter de donner des services. On demandait à des enseignants, des fois, en 24 heures, de se retourner de bord et d'être capable de s'adapter à un enseignement à la maison, un enseignement à distance, sans que les élèves soient équipés, aient le matériel informatique pour suivre ces cours-là, sans que l'enseignant ait tous les outils pour faire ça. Nous, ce qu'on dit, on a besoin de faire une grande réflexion en éducation. On n'en a pas profité pendant la pandémie. La négociation et les élections nous permettent de remettre sur la table quelles sont les grandes difficultés et de faire une chose, parce que je vais saluer une chose qui s'est faite au début de la pandémie. Le gouvernement en place, qui construisait l'avion en plein vol, avait réalisé que c'était important de parler aux partenaires. Je ne dis pas rien qu'aux syndicats, là. Je dis à l'ensemble des partenaires de l'éducation. Ça s'est fait. Et c'est pour ça qu'au début de la crise, en éducation, on a réussi à faire des choses ensemble. Mais il y a eu aussi de grandes ratées. On l'a vu, on a des écoles qui sont désuètes. La qualité de l'air dans nos écoles est terrible. Il manque de personnel, il manque de locaux. Maintenant, on pense que c'est avec les gens du terrain qu'on peut se parler de tout ça, suivre l'exemple du début de la pandémie, suivre l'exemple du retour qu'on a fait en
mais
classe.
Vous voyez, Madame Scalabrini, on peut, le gouvernement peut agir par lui-même là, puis pas attendre d'être dans des manifestations puis des rondes de négociations pour pouvoir avoir des bonnes idées. Peut-être pouvez-vous contribuer à la réflexion de tous les partis politiques durant la prochaine campagne électorale. Je rappelle que vos actions s'inscrivent dans une campagne qui va s'étaler durant la campagne électorale, qui s'appelle « Je vote en couleur ». Et Madame Scalabrini, on va suivre vos manifestations, vos sorties publiques et vos doléances durant tout l'été. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous.
Ne suivez pas que nos doléances, suivez nos solutions, puis on sera au rendez-vous pour donner des solutions. Merci beaucoup, madame.
On a hâte de les entendre. José Scalabrini est président de la Fédération des syndicats d'enseignement du Québec, CSQ.